bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle émission proposée et animée par l'Astro Club du Marsan, les Landes et du Ciel. Je m'appelle Yves De Angeli et pour m'accompagner aujourd'hui, Richard Bartek.
Strasbourg.
Michel Dauphin.
Allô.
Et Marina Bray.
Bonjour.
Au cours de cette émission, nous verrons comment l'homme a réussi à s'éloigner de la Terre pour découvrir les autres mondes qui composent notre système solaire. Pour la première partie, je parlais plus de conquête que d'exploration. La poudre noire a été inventée au 7e siècle. On a commencé à faire des fusées et on essayait de faire décoller tout ce qui pouvait décoller. Mais vers le début du 20e siècle, des théories sur le vol spatial commencent à émerger et des sociétés savantes se mettent en place et elles sont composées d'ingénieurs, de passionnés. On pourrait citer les plus importantes, il y a la VFR en Allemagne, la GIRD en URSS, l'ARS et l'IAS aux États-Unis, la BIS en Angleterre et la SAF en France. L'une d'elles va être vraiment, vraiment importante dans l'histoire de la conquête de l'espace. C'est la VFR. La VFR, elle fut créée en 1927 et ses membres célèbres furent Oberth, von Braun, Riddle, Vallier et Ley. Winkler lança sa première fusée Ergol liquide en Europe en février 1931. Ça fait un changement par rapport à la poudre. L'intérêt de l'ergol liquide, c'est qu'on fait un mélange de carburant et de comburant, et donc on peut doser la puissance. C'était le début du pilotage des fusées. Ils ont réussi en 1932 à envoyer une fusée qui s'appelait Repulsor 4. Elle a réussi à monter à 1500 mètres d'altitude et avec une portée de 5 km. Bien évidemment, nous sommes à l'époque de la mise en place du nazi en Allemagne. Les militaires ont vite compris l'intérêt qu'il y avait de pouvoir envoyer des bombes, des explosifs sur les ennemis sans prendre le risque de voir ses pilotes tués. Donc les nazis interdisent les essais civils, interdisent le vol de toutes les fusées. Elles obligent, on va dire indirectement, plus ou moins ces ingénieurs de la VFR à accepter de travailler pour les nazis. Certains l'ont fait volontairement, d'autres, comme von Braun, l'a fait contraint et forcé, parce qu'il avait dans sa tête l'idée, lui, c'était la Lune, c'était d'aller au-delà en fait, de l'atmosphère. Mais bon, il avait guère le choix, donc il a participé à ce programme. D'ailleurs, il va être l'ingénieur en chef du programme des V2, tristement célèbre. Donc les V2, c'était des fusées qui étaient tirées depuis l'Allemagne et qui montaient dans la haute atmosphère et qui pouvaient retomber n'importe où en Europe. Donc en gros, il y a eu 4000 fusées qui ont été construites pendant cette époque-là. En gros, 2100-2150 fusées sont tombées sur la France, sur la Belgique, sur les Pays-Bas. 1500 en Grande-Bretagne et puis les autres, même en Allemagne, elles sont tombées. Donc c'était des fusées qui permettaient des grandes fusées de 14 mètres de haut qui pesaient 12 tonnes et demie et qui pouvaient emporter à peu près une tonne de matériel explosif sur 320 km. Elles volaient à Mach 3,5 et elles montaient à 90 km d'altitude. À savoir que ce qu'on appelle la limite de l'espace, c'est 100 km. Donc ces fusées ont fait beaucoup de dégâts et à la fin de la guerre, quand le régime nazi était vaincu, eh bien, rapidement, tous les alliés se sont empressés de récupérer ce matériel parce que militairement, c'était très intéressant. Les premiers arrivés, c'était les Américains. Ils ont récupéré von Braun avec toute l'équipe d'ingénieurs et pas mal de matériel. Ça va donner naissance au projet Redstone aux États-Unis. Les Russes ont récupéré quelques installations. Ces installations, quelques techniciens vont permettre de développer les fusées R, de R1 à R7, on le verra tout à l'heure, qui ont été des fusées très, très importantes. En France, on a récupéré une trentaine de spécialistes, un peu de matériel, qui va donner naissance au programme Véronique, qui lui, par conséquent, donnera naissance plus tard au programme Ariane. Les Anglais récupérèrent quelques matériels, mais eux n'avaient pas de volonté, en fait, de se développer, donc ils ont fait des essais. Donc on se retrouve à l'issue de cette guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, en pleine guerre froide, où en fait deux blocs s'affrontent, donc on a les USA et on a l'URSS qui s'affronte, bien conscient du fait qu'un missile balistique est super important parce qu'on va pouvoir toucher l'autre pays sans être obligé de se déplacer. Donc le développement va continuer de ces fusées, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en 1952, 67 pays décident de la création de l'année géophysique internationale qui devait se passer de juillet 57 à décembre 58, dont le but était de se concentrer les moyens de tout le monde sur l'exploration pour mieux connaître notre atmosphère. Bien évidemment, c'était un super terrain de jeu pour les deux puissances. Et en 1955, le 29 juillet, les États-Unis annoncent qu'ils enverront, dans le cadre de cet AGI, un satellite. 4 jours plus tard, l'URSS annonce qu'effectivement, un gros satellite serait lancé, mais qui ne serait pas américain. Donc la course est vraiment lancée. le combat, on va dire, entre ces deux puissances est important. Aux États-Unis, on va trouver Redstone, le programme Redstone avec Von Braun de l'US Army. Et on va trouver un programme Vanguard qui était fait par la Navy. Et en URSS, on va trouver les fusées Air qui vont, on le verra plus tard, réussir un exploit. En 1956, il y a eu un premier essai de tir d'un missile Redstone qui a atteint 90% de la vitesse de satellisation, mais Eisenhower interdit l'allumage du dernier étage pour des questions politiques et surtout, on va dire, en arrière-plan, dans l'idée de se dire qu'il n'était pas possible que ce soit un Allemand qui fasse voler la première fusée américaine. S'il avait laissé faire, eh bien, ils auraient gagné la course. En URSS, on a la fusée R7, Semyorka, donc la petite septième. Le 3 octobre 1957, la fusée décolle à 22h28. 5 minutes après le tir, Sputnik est en orbite. Et l'orbite est parcourue en 96 minutes. Ça y est, le Sputnik est en orbite. L'URSS a gagné. Donc on peut dire que URSS 1, États-Unis 0. Pour rattraper leur retard, les Américains tentent quand même de lancer un satellite avec une Vanguard. Bien évidemment, ça a raté. Et dans tous les journaux du monde, on parle de Flopnik ou de Kaputnik. Finalement, les Américains réussirent à lancer quand même, en 58, le 31 janvier, leur premier satellite Explorer 1 par une Redstone, donc par Von Braun.
Oui, alors, ce sont bien les journaux américains qui parlent de Flopnik et Kaputnik. Pendant ce temps-là, les Soviétiques entament les programmes Vostok et Voskhod avec le lancement réussi de 3 Sputnik en 57 et début 58.
Dans le même temps, les Américains aussi développent le programme Mercury et Gemini qui ressemble aux deux programmes développés par l'URSS.
Oui, effectivement, les deux programmes sont approximativement les mêmes. Le but, l'objectif, c'est bien la maîtrise de l'espace. Les premiers programmes spatiaux soviétiques visent l'apprentissage de l'espace. Il s'agit de placer des vols en orbite. D'abord une machine, puis un animal. Un homme, une femme, un équipage, un vol en formation, un amarrage et une durée de vol, une sortie dans l'espace, et ensuite d'analyser tous les effets physiologiques sur l'humain dus à l'impesanteur, le stress, les rayons cosmiques, etc. C'est le programme Vostok pour les monoplaces et Voskhod pour les équipages. L'idée est persistante, c'est la préparation des vols longue durée, des recherches biomédicales et le perfectionnement des vaisseaux pour placer l'homme dans l'espace. Après avoir appris la maîtrise des premiers pas, on attaque la course à la Lune. Un mois après Sputnik 1, le 3 octobre 57, c'est Sputnik 2 qui emmène la chienne Laïka le 3 novembre 57. Elle a été le premier animal dans l'espace.
Ça a été aussi le premier animal décédé dans l'espace, malheureusement. Quoi qu'il en soit, le 31 janvier 61, les USA envoient le premier hominidé dans l'espace pour un vol spatial orbital, le chimpanzé Ham, lors de la mission Mercury Redstone 2. Lui reviendra vivant.
Oui, le 12 avril 61, c'est Yuri Gagarin qui est le premier homme dans l'espace en vol suborbital.
Et le 5 mai 61, Alan Shepard devient le premier Américain dans l'espace en vol suborbital lors de la mission Mercury Redstone 3. C'est la première mission spatiale habitée qui atterrit avec un pilote toujours dans le vaisseau spatial. Donc le premier vol spatial habité complet.
Si on veut, parce que le 6 août 61, quand même, c'est German Titov qui est le premier homme sur orbite terrestre. Et c'est la plus jeune personne à être allée dans l'espace jusqu'au 21 juillet 2021.
Et le 20 février 62, le premier vol orbital habité, John Glenn devient le premier Américain en orbite terrestre à bord de la capsule Friendship lors de la mission spatiale Mercury Atlas 6.
En parlant de Titov, il n'a pas eu des petits soucis pour entrer dans la capsule une fois sa sortie extravéhiculaire ?
Bon, ça aurait été de petits soucis mineurs qui ont été vite corrigés.
Oui, et puis il a quand même atterri à 2000 km du point prévu à l'origine.
Et la guerre d'après.
Mais ce n'est pas fini tout ça. Après un premier discours devant le Congrès américain le 25 mai 1961, JFK annonce au peuple le 12 septembre 62 que les États-Unis s'engagent à envoyer un homme sur la Lune avant la fin de la décennie. Suite de la course poursuite.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win.
Alors le 16 juin 63, c'est Valentina Tereshkova qui a été la première femme et la seule en vol solo sur Vostok 6. Et puis après, on a le 18 mars 65. Alors là, c'est Alexei Leonov qui fait la première sortie extra-véhiculaire dans l'espace avec Voskhod 2.
Oui, avec Voskhod 2, il n'a pas eu des petits problèmes aussi avec sa surpression dans son combinaison là. Il ressemblait un peu à Bibendum, non?
Bon, pas vraiment, non, c'est pas grave. Hein. Il est revenu quand même.
Le 15 septembre 65 a lieu le premier rendez-vous spatial entre deux vaisseaux, Gemini 6 et Gemini 7.
Alors le 3 février 66, on a Luna 9 par exemple, le premier atterrissage en douceur sur la Lune. Et le 3 avril 66, la première mise en orbite lunaire avec Luna 10.
Le 16 mars 66 a lieu le premier amarrage spatial entre le vaisseau Gemini 8 et la fusée cible Agena, effectué par l'astronaute Neil Armstrong, un nom dont il faudra se rappeler. Le 27 janvier 67, les deux programmes Gemini et Mercury ont été validés et démarre le véritable programme de Apollo. Lors d'un essai au sol, et il s'agissait de la mission Apollo 1, un violent incendie se déclare dans la capsule Apollo au sommet du lanceur Saturne 1B. Les trois astronautes qui l'occupent, Virgil Ivan Grissom, Roger Chaffee et Edward White, meurent carbonisés. Le programme sera arrêté pendant près de 2 ans.
Ouais. Du côté soviétique, le 14 septembre 68, c'est la mission Zonde 5. Ce sont des tortues soviétiques qui survolent la Lune. C'est le premier vaisseau spatial habité autour de la Lune.
Et le 24 décembre 68, c'est la première fois qu'un équipage s'échappe de l'orbite terrestre et se met en orbite lunaire. C'est la première fois qu'un humain voit un lever de Terre pendant la mission Apollo 8.
Alors là, je vais dire que c'était peut-être une petite erreur parce que la première photo n'a pas été ramenée par Apollo 8, mais par Zonde 5, à 90 000 km de la Terre. Ensuite, le 7 juillet 69, Bordeaux, c'est la première navette soviétique à faire un aller-retour dans l'espace. C'est le début du programme des navettes Bourane.
Ouais, ils n'ont pas pris le temps de s'arrêter. Par contre, le 21 juillet 69, Apollo 11 signe le premier pas de l'homme sur la Lune lors de la mission, effectué par Neil Armstrong et Buzz Aldrin, Michael Collins restant en orbite dans le module de commande. Il s'agit du point le plus éloigné de la Terre jamais foulé par un être humain, ni même par un être vivant connu à ce jour. Puis le 13 avril 70, Apollo 13, la mission Apollo 13, donc, on entend ce message que émet James Dwigwerk, qui prononce cette fameuse phrase depuis le vaisseau Apollo. « Ok, Houston, we have had the problem here. » Un réservoir d'oxygène du vaisseau spatial vient d'exploser durant le transit de la Terre à la Lune. L'équipage survécut en utilisant le module lunaire comme vaisseau de secours. Cette histoire est racontée dans le film Apollo 13 de Ron Howard, sorti en 1995.
Alors, pour nous, bien, c'est vrai, la course à la Lune est perdue, mais Lunarhod 1, c'est un véhicule extraterrestre, et a été posé le 17 novembre 70 par Luna 17. C'est une espèce de grosse cocotte-minute dotée de 8 roues métalliques qui comporte avec lui un réflecteur laser français.
Et le 26 juillet 71, les Américains envoient également un rover lunaire lors de la mission Apollo 15. Ça a été aussi un défi technologique supplémentaire. Enfin, le 19 décembre 1972, Apollo signe la dernière mission lunaire dans le cadre du programme. Et c'est la dernière fois qu'on a vu un homme poser le pied sur la Lune, semble-t-il.
Donc là, on peut dire qu'on se retrouve avec URSS 1, États-Unis 1. Match nul, balle au centre, en route vers de nouvelles aventures.
thoughts are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jaguru Deva, oh, nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change. Images of broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Sounds of laughter, shades of life are ringing through my opened ears, inciting and inviting me. Limitless, undying love which shines around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Jaguru Deva, oh, nothing's gonna change my world. Change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Jaguru Deva. Jaguru
Donc une fois la Lune atteinte, il faut un nouveau projet pour la technologie spatiale et par rebond pour dominer le monde entier, parce que celui qui maîtrise le ciel maîtrise le monde. On le sait maintenant avec les satellites de communication GPS, les transferts de données, etc. Mais avant, ça permettait de savoir ce qui se passait chez l'autre, sans pour autant y aller. Pendant cette course, il y a quand même eu de nombreuses sondes scientifiques, là on est vraiment sur le volet d'exploration, qui ont exploré les planètes de notre système solaire. Et on va vous présenter les quelques missions importantes qui ont marqué l'histoire de la connaissance de notre système planétaire.
Oui, alors on va commencer par le programme Luna. De nombreuses sondes ont été envoyées vers la Lune, avec un taux de réussite relativement mitigé, puisque 26 sondes sont des échecs entre 62 et 65. L'URSS a envoyé la première fusée vers la Lune, était basée sur la Semyorka, la petite septième, avec un étage supplémentaire, c'est Luna 1. Le 4 janvier 59. Et toute la série de Luna a permis de l'atteindre. Luna 2, par exemple, le 13 septembre 59.
Oui, et Luna 2 qui a eu un atterrissage un peu compliqué.
Mais non, il a eu un atterrissage dynamique, tout simplement. Elle a permis de photographier toute la Lune, Luna 3, le 7 octobre 59, et de s'y poser en douceur, Luna 9, le 3 février 66. Et d'en ramener des échantillons, Luna 16, et Luna 17 dépose un véhicule, Luna Road, le 17 novembre 70. Grâce à ces missions, on connaît mieux notre Lune, la composition du sol, les images de la face cachée, la gravité, la température, les radiations, les mesures de distance, etc.
Pendant ce temps, les États-Unis, eux, développent le programme Mariner qui va se dérouler entre 1962 et 1973. et qui avait comme objectif d'étudier les planètes du système solaire, et notamment Mars, Vénus et Mercure. Il est à l'origine de plusieurs premières dans le domaine de l'exploration spatiale. Première mise en orbite autour d'une planète autre que la Terre, première utilisation de l'assistance gravitationnelle, cartographie d'une grande partie de la planète Mars et de 45% de la planète Mercure, et connaissance de la composition de l'atmosphère de Mars et Vénus. Pour Mars et Vénus, les résultats modifient radicalement l'image idéalisée de ces planètes que beaucoup de gens et certains scientifiques considéraient jusque-là comme des parents proches de la Terre.
Une autre mission importante où il faut vraiment parler, c'est la mission Voyager. Alors Voyager, c'est un programme robotique de la NASA qui, au contraire de Mariner qui est resté sur les planètes internes, Voyager s'est intéressé aux planètes externes. Donc ces planètes géantes, donc Jupiter, Uranus, Saturne et Neptune, et leurs satellites. Donc il y a deux sondes qui ont été lancées en 1977. Elles étaient composées de 9 instruments scientifiques qui ont permis de faire toutes les analyses que nous connaissons actuellement. Donc des analyses, des photos, les plus belles images qui ont été renvoyées, c'était vraiment énorme. Des analyses électroniques, des analyses de radiation. Donc les images importantes, la tache sombre de Neptune, les anneaux de Jupiter, les anneaux de Saturne, qui ont été précurseurs à l'envoi de la mission Cassini-Huygens, qui a permis de vraiment connaître la planète Saturne. Et la deuxième phase de cette mission, qui avait été programmée dès le départ, puisqu'on avait jeté ces sondes en direction du fond des systèmes solaires, et bien c'était de pouvoir laisser continuer ces sondes au-delà de ces planètes-là. Donc cette deuxième phase a commencé en 1989. Voyager 1 était à 6 milliards de kilomètres, et Voyager 1 a été le premier objet fabriqué par l'homme à s'aventurer dans l'espace interstellaire. L'espace interstellaire, c'est l'espace où le Soleil n'a plus d'influence. Donc c'était vraiment en dehors de notre système planétaire. Actuellement, Voyager se trouve à 24 milliards de kilomètres. C'est-à-dire que quand on envoie une information, on envoie un ordre à Voyager 1, il faut en gros 22h30, 22h30 pour qu'elle reçoive le signal. Et pareil pour qu'elle nous réponde. Mais c'est pas grave, puisque dans tous les cas, les analyses des instruments ne fonctionnent plus. Nous, ce qui nous intéresse actuellement, c'est simplement de savoir où se trouve la sonde. Si la sonde ne subit pas d'interaction avec d'autres corps, d'autres objets de notre système, elle devrait continuer en ligne droite. Si sa position dévie, ça veut dire qu'elle a rencontré un élément qui a fait dévier en fait sa trajectoire. Alors ce qui est important à trouver sur cette sonde Voyager, ça avait déjà été fait sur Pioneer, mais sur Voyager, Carl Sagan a proposé de mettre un disque, c'est ce qu'on appelle le disque d'or, un disque sur lequel sont enregistrés des sons de la Terre, des images de la Terre, toutes les langues, les musiques, etc., etc., comme une petite bouteille à la mer extraterrestre, pour que si E.T. un jour trouve la sonde, qu'il puisse écouter le disque, il y a une petite navette qui pourra poser dessus pour écouter, et puis comprendre et connaître en fait l'humanité. Donc normalement, ce matériel-là devrait tenir beaucoup plus longtemps que la Terre et le Soleil, parce qu'il accompagne d'un stylet en uranium-238, et donc E.T. quand il trouvera cette sonde dans des milliers, millions, milliards d'années, ben, il pourra savoir qui on était.
Oui, on va revenir un peu plus proche, c'est le programme Venera, qui s'est déroulé de 67 à 75. Alors on parle de Venera ou de Vénus, indifféremment. Vénus 1 et 2, ce sont les programmes d'approche, des corrections de trajectoire télécommandées et les tests des instruments de radio, TV, navigation, etc. Toutes les deux sont passées loin de Vénus et ont fini en orbite solaire. De Vénus 3 à Vénus 9, l'objectif c'est la pénétration de l'atmosphère, le parachutage de sondes, l'étude de la composition de l'atmosphère et autres. Ainsi, Venera 4, le 18 octobre 67, place la première sonde de l'atmosphère de Vénus. Elle envoie des données jusqu'à 25 km d'altitude.
Et pourquoi 25 km? Pourquoi pas plus loin?
Eh bien, parce que c'est là que l'on découvre le caractère très acide et la très haute pression de l'atmosphère de Vénus. La mission se termine quand même par le dépôt d'une sphère portant l'emblème de l'URSS et le portrait de Lénine. Venera 7, le 15 novembre 70, la capsule se pose sur Vénus et transmet pendant 23 minutes. Venera 9, le 22 octobre 75, elle met la première sonde en orbite et effectue le premier atterrissage en douceur sur Vénus elle assure la transmission des premières photos du sol d'une autre planète.
En 1975, la NASA démarre un programme, mission Viking, qui avait pour objectif l'exploration de Mars, sur laquelle deux sondes spatiales se posèrent pour la première fois à l'été 1976. Chacune des deux sondes spatiales, Viking 1 et Viking 2, consistait en un orbiteur et un atterrisseur. Un atterrisseur développé avec Carl Sagan, constitué d'une plateforme, car Carl Sagan est aussi l'auteur également de la plaque Pioneer, Pioneer 10 et 11, et de Voyager Golden Record, qui équipait les sondes Pioneer et Voyager interstellaire. Après les années de préparation, Viking 1 et 2 furent lancés le 20 août et le 9 septembre 1975 par une fusée Titan équipée d'un dernier étage Centaure. 10 mois plus tard, quand même, Viking 1 atteignait l'orbite martienne et ses photographies permirent d'identifier un site d'atterrissage. Et son atterrisseur se posa le 20 juillet 1976 et Viking 2 le rejoignit le 3 septembre. 6 années durant, ces deux sondes équipées d'instruments scientifiques ont donc analysé la structure et la composition de l'atmosphère et de la surface de Mars. Ces expériences n'ont pas permis de découvrir l'existence d'une vie martienne. Elles ont au contraire permis de constater que le sol martien, sans doute sous l'effet du rayonnement ultraviolet solaire, comporte des composés extrêmement oxydants dont la présence interdit l'existence de toute molécule organique. Les deux sondes étudièrent aussi la météo et la sismologie et elles prirent enfin plus de 50 000 photographies en haute résolution depuis la surface comme en orbite.
Donc après ces débuts d'exploration spatiale, de nombreuses missions ont exploré les mondes de notre système planétaire. L'exploration continue avec de nouvelles sondes. Il y a des robots qui actuellement cherchent sur Mars. Et un retour sur la Lune avec d'autres concurrents, la Chine, l'Inde, le Japon, les Émirats Arabes Unis, etc. L'objectif continue. Lors de la prochaine émission, nous vous parlerons des informations, plus ou moins vraies, qui sont diffusées sur tous les médias. Vraies, fausses, des erreurs ou manipulations. On va un peu décrypter tout ça. Et vous pourrez nous rencontrer lors de la nuit de l'équinoxe que nous vous proposons le 22 mars à partir de 20h à l'église de Classin pour une soirée aux étoiles et pour une éclipse partielle de soleil le samedi 29 mars, place Saint-Roch à Mont-de-Marsan à partir de 10h. Retrouvez-nous en podcast sur Radio MDM ou passez nous voir les mardis soirs et vendredis soirs pour partager le ciel. Info sur notre page Facebook Astro Club du Marsan. Bon ciel à toutes et à tous et à bientôt. C'était Les Landes et du Ciel, une émission proposée par l'Astro Club du Marsan. Nous vous donnerons rendez-vous le mois prochain. Retrouvez également cette émission dans les podcasts de Radio MDM.